Vous écoutez, on lit pour vous.
Protéger ou exploiter, qui sauvera la baleine noire? Une chronique de Johan Bourgoin, parue le 29 mai 2024 dans l'Acadie Nouvelle au Nouveau-Brunswick. La baleine noire de l'Atlantique Nord est l'une des espèces les plus menacées de la planète, avec une population estimée à seulement 360 individus. Autrefois, l'océan Atlantique regorgeait de ces majestueux animaux, mais dès la fin du 19e siècle, les baleiniers commerciaux les ont impitoyablement chassés, poussant l'espèce au bord de l'extinction. En 1935, devant le déclin alarmant des populations de baleines noires, les autorités internationales ont interdit leur chasse commerciale. Des décennies plus tard, alors que les populations commençaient à se rétablir, les États-Unis ont renforcé leur protection en les inscrivant sur la liste des espèces en danger, en vertu de l'Endangered Species Act, faisant ainsi de leur mise à mort, de leur maltraitance ou de la destruction de leur habitat un crime fédéral. Le Canada a ensuite mis en place des mesures similaires. En théorie, ces baleines étaient et sont toujours hautement protégées. Les gouvernements américains et canadiens investissent des millions dans leur préservation. Pourtant, elles continuent de périr tragiquement. Depuis l'été 2017, plus de 120 baleines noires de l'Atlantique Nord sont mortes, ont été gravement blessées ou sont tombées malades, selon l'Administration nationale des océans et de l'atmosphère, NOAA. Maintenant, le problème n'est plus la chasse à la baleine. Ce qui tue ces animaux aujourd'hui, ce sont certaines pratiques de pêche et de navigation, ainsi que les personnes qui les autorisent. Les cordages reliés aux casiers à crabes et à homards s'entremêlent avec les baleines, s'incrustant lentement dans leur chair pendant des mois, voire des années, jusqu'à provoquer leur mort. De plus, les bateaux de pêche et les navires porte-conteneurs heurtent accidentellement ces géants marins, souvent aperçus près de la surface. Selon le Fonds mondial pour la nature, WWF, plus de 80 % des baleines noires de l'Atlantique Nord ont subi un enchevêtrement au moins une fois dans leur vie. Mais au-delà de ces événements se profile un défi colossal pour leur survie. Elles font face à des intérêts économiques puissants et à une industrie qui représente une source de revenus substantielle pour une partie importante de la population. Dans un monde où les animaux non humains sont dépourvus des droits les plus fondamentaux, leur lutte est souvent condamnée à l'échec. Face à l'électorat, rares sont les décideurs qui possèdent le courage politique nécessaire pour protéger l'environnement et la biodiversité. Toute cette histoire met en évidence une lacune simple, mais conséquente dans les politiques environnementales modernes. Elles peinent à fonctionner efficacement lorsqu'elles sont en conflit avec le consumérisme et la recherche de commodités, lorsqu'elles nécessitent des changements dans les industries et les comportements des consommateurs. Il ne s'agit pas d'un manque de solutions pour préserver les baleines noires de l'Atlantique Nord. Au contraire, elles sont non seulement disponibles, mais aussi d'une grande simplicité. Le vrai problème réside dans le fait que l'économie, ici ou ailleurs, privilégie les produits bon marché aux dépens de la vie et du bien-être des animaux sauvages. Pourtant, il existe de nombreuses raisons valables de protéger la biodiversité, même si cela implique parfois de prendre des décisions difficiles qui pourraient déplaire à la majorité. Chaque espèce joue un rôle unique dans son environnement, mais prenons l'exemple de la baleine. Les baleines contribuent à purifier l'air et l'eau, à réguler le climat et à soutenir la vie marine. Leur disparition perturberait gravement ces équilibres, entraînant des conséquences en chaîne pour la planète entière, y compris pour notre propre survie. Il ne s'agit donc pas de contrarier l'industrie de la pêche ou de se mettre à dos ses nombreux travailleurs, mais plutôt de prendre des décisions sociétales rationnelles qui profiteront au plus grand nombre et auront un impact positif durable. Des solutions technologiques existent pour que les pêcheurs puissent éviter les cordages nuisibles aux baleines et réduire la vitesse des bateaux pour limiter les collisions. Cependant, avec les changements climatiques et la fragilité croissante de la biodiversité, l'industrie de la pêche devra se réinventer, tout comme nos régimes alimentaires. Choisir de protéger la biodiversité tout en garantissant une transition juste et équitable pour les travailleurs est essentiel, car la conservation de la biodiversité ne peut plus être subordonnée aux impératifs économiques. C'était « Protéger ou exploiter, qui sauvera la baleine noire? » Une chronique de Johan Bourgoin, parue le 29 mai 2024 dans l'Acadie Nouvelle au Nouveau-Brunswick.
Vive les bêtises de nos politiciens, un texte de Mario Girard, paru le 27 avril 2024 dans la presse. Jamais les bêtisiers n'ont été aussi populaires. En plus de l'équipe d'Infoman, qui nous rapporte tous les jeudis soirs les bévues de nos politiciens et les dérapages qui ont cours dans les conseils municipaux, on peut compter sur Olivier Niquet, pilier de « La journée est encore jeune », pour accomplir cette tâche. À ceux-ci s'ajoute Jean-Philippe Cipriani de l'émission « Tout peut arriver » qui, dans sa revue de presse hebdomadaire, ne manque pas de relever plusieurs perles. Le style de Cipriani diffère de celui de ses collègues en ce sens que la bêtise n'émane pas autant des propos des personnalités visées que des commentaires dont il saupoudre ses clips. Son approche me rappelle celle de Yann Barthès, animateur de l'émission Quotidien en France. Et puis, il y a Frédéric Labelle, qui sévit tous les matins chez Paul Arcan au 98,5. Rapide sur la gâchette, ce chroniqueur excelle dans l'art de relever les buzz des réseaux sociaux. Cela l'amène à braquer la loupe sur les déclarations de certaines personnalités, notamment les politiciens. Bref, nous aimons rigoler aux dépens de l'élite. Parce que c'est ça, au fond, le principe du bêtisier, le bouffon qui se moque du roi. Grand consommateur du genre, je remarque que ce qui est une bêtise pour les uns ne l'est pas pour les autres. Quand Frédéric Labelle ressort un clip où on entend François Legault s'extasier en compagnie d'enfants devant le trou qu'on a creusé pour qu'il puisse y planter un arbre, on réagira différemment si on est parent, si on déteste la CAQ ou, au contraire, si on apprécie ce parti. La bêtise est d'abord dans l'œil de celui qui s'en empare et l'offre au public. Les auteurs de bêtisiers sont des chroniqueurs, certains diront avec un nez de clown, qui véhiculent des opinions. Face aux réseaux sociaux qui ne font que rapporter les gaffes des personnalités dans des vidéos courtes, ils ont une valeur ajoutée. Je dois reconnaître que dans les quatre exemples cités, ces concepteurs prennent leur rôle très au sérieux. Réaliser un bon bêtisier ou une revue de presse pimentée demande beaucoup de travail. On nous a toujours dit « les paroles s'envolent, les écrits restent ». Ce n'est plus vrai. Aujourd'hui, toutes les déclarations publiques ont droit à la postérité et peuvent rebondir n'importe quand dans l'espace public. Parlez-en à Normand Marineau, qui a fait l'objet d'un micro-trottoir en 1962 sur les ondes de Radio-Canada, alors qu'il avait 11 ans. Plus de 60 ans plus tard, il devient une star des réseaux sociaux grâce à la façon dont il roulait les airs. Qu'on se le dise, on préfère voir la bêtise chez l'autre, rarement chez soi. Pourtant, nous sommes tous capables de bêtises. Si nos propos devaient être enregistrés au quotidien pendant plusieurs minutes, il est certain qu'Olivier Niquet pourrait nourrir des chroniques jusqu'à la fin de ses jours. Cette chasse à la bêtise, les politiciens et les diverses personnalités en sont pleinement conscients. Combien de fois on les entend dire « C'est sûr que je vais me retrouver à Infoman en vous disant cela ». Je comprends ces personnalités dont les déclarations sont scrutées à la virgule d'être prudentes. Mettez-vous à leur place. D'un côté, on les traque avec un micro et une caméra, et de l'autre, on leur reproche de faire grand usage de la langue de bois. On n'aime pas d'un politicien qu'il soit beige et lisse. Mais, ironiquement, c'est souvent lorsqu'il fait une gaffe qu'il se rapproche le plus de l'authenticité. Le journaliste Michael Kinsley, qui s'est beaucoup intéressé aux bévues des politiciens durant sa carrière, on appelle d'ailleurs cela une Kinsley gaffe, a déjà dit « Une gaffe, c'est ce qui arrive quand un politicien dit la vérité ». L'une des choses qui explique, à mon avis, le vaste choix de bêtises qui s'offre aux chroniqueurs est notre propension à extraire les personnalités de leur lieu naturel. Ah, la fameuse phrase « On me fait sortir de ma zone de confort ». L'animal n'est jamais bête lorsqu'il est dans son habitat naturel. Mais lorsqu'il est placé dans des situations auxquelles il n'est pas adapté, il devient bête. Il en va ainsi des personnalités qui acceptent d'aller dans des cadres qui ne sont pas les leurs. Notre époque est de l'engrais 20-20-20 pour la bêtise. Dernière observation. Nous avons tendance à considérer comme plus bêtes les personnes qui s'expriment mal, qui parlent fort, qui sont grossières. Rien n'est plus faux. La bêtise ne choisit pas une classe sociale. Le seul avantage qu'ont ceux qui manient mieux la langue que d'autres, c'est de retarder le moment où la bêtise se dévoilera. Combien de fois ai-je été ensorcelé par les propos d'un soi-disant intellectuel pour me dire à la fin de son laïus « Finalement, c'est niaiseux ce qu'il vient de dire. » La bêtise et ceux qui la propagent ont de beaux jours devant eux. Heureusement pour nous, on se sentira moins seul et moins bête. C'était « Vive les bêtises de nos politiciens », un texte de Mario Girard, paru le 27 avril 2024 dans La Presse.
La résilience est de mise chez les producteurs et les cueilleurs de cerises de l'Ouest canadien. Un texte de Florence Bordeloup-Gagné, paru le 10 juillet 2024 dans Le Devoir. Environnement Canada a diffusé mardi 9 juillet 2024 plusieurs avertissements de chaleur pour une vaste zone s'étendant de la Colombie-Britannique à la frontière de l'Ontario. La vallée de l'Okanagan, dans l'Ouest canadien, souffre particulièrement de cette température accablante. Les propriétaires de fermes de cerises et leurs employés s'habituent comme ils le peuvent à ces épisodes de plus en plus nombreux. Le plus dur, c'est quand la température ne baisse pas beaucoup en fin de journée, explique Sophie Leblanc, cueilleuse à Oliver depuis 3 ans. Cette année, je dors dans ma voiture plutôt que dans une tente, et hier, par exemple, j'ai dû sortir à un moment pour aller dormir dans un hamac extérieur. J'avais les cheveux mouillés, comme si je sortais de la douche. La fatigue accumulée rend son travail du lendemain beaucoup plus pénible. Et c'est ce qui attend les travailleurs de l'Okanagan pour le reste de la semaine. Les températures très élevées en journée ne descendront pas assez la nuit pour donner un répit à ces cueilleurs qui dorment directement sur leur lieu de travail. On développe des tactiques. Certains installent des ventilateurs dans leurs tentes et on se rince à l'eau froide avant de se coucher, explique Sophie Leblanc. Les employés sont invités à devancer leur horaire lors des périodes de forte chaleur, en grimpant dans les échelles de cueillette dès 2 heures du matin, voire minuit, plutôt que 4 heures. Ils peuvent également décider de leur propre chef de ne pas se présenter, sans conséquence de la part du producteur. Les cueilleurs sont payés à la quantité ramassée plutôt qu'à l'heure. Selon Kevin Mann, propriétaire de la ferme SM Produce, située à Oliver, les absences dues à la chaleur sont rares. C'est plus dur pour eux, mais les gens ne se découragent pas pour autant, explique-t-il. Comme le début de saison a été très difficile en raison du temps doux qui avait permis aux arbres de fleurir et du gel violent qui a suivi et d'un coup ruiné le travail printanier d'une grande majorité de cerisiers, les fruits se font plus rares cette année et les cueilleurs cherchent davantage le travail que le repos. Nous sommes évidemment inquiets pour les décennies à venir, explique Kevin Mann, 26 ans. Avec les répercussions des changements climatiques qui se font de plus en plus sentir, on se demande si nos enfants vont pouvoir mener le même type de vie que nous sur ces terres. On ne le sait vraiment pas. Les épisodes de chaleur, sans ruiner les récoltes, accélèrent le mûrissement des cerises et ces dernières deviennent parfois prêtes à la consommation en même temps que celles de fermes américaines, par exemple. Ce décalage crée une concurrence plus féroce sur le marché et déséquilibre le système d'offre et de demande. On ne peut quand même pas se mettre à donner nos cerises, déplore Kevin Mann. On teste différentes variétés d'arbres pour faire varier les temps de mûrissement et évaluer leur facilité d'entretien. Le dôme de chaleur de 2021, événement sans précédent, a sonné la première alarme pour les producteurs qui recherchent activement des solutions depuis. Nous sommes inquiets, mais à ce point-ci de la saison, il n'y a rien qu'on puisse faire, lance le propriétaire, qui semble prendre chaque journée avec philosophie. Ce qui est certain, c'est qu'on va trouver une façon de s'adapter, renchérit-il, en expliquant qu'une technique impliquant des bâches de plastique permet de tenir les fruits à l'abri des aléas météorologiques, comme les grosses averses, et donc de maximiser les récoltes quand elles sont possibles. Un nouvel outil de prévention et de sensibilisation. Lors d'un bréfage technique début juillet 2024, Environnement Canada a dévoilé les premiers résultats d'un nouveau système d'attribution rapide des phénomènes météorologiques extrêmes. L'étude a été menée sur la vague de chaleur historique qui s'est installée fin juin 2024 sur l'est du pays. Un pic de température de près de 11 degrés Celsius supérieur à la normale a alors été enregistré. Ce système d'attribution rapide, qui met en parallèle des températures estimées des siècles passés et celles vécues actuellement, s'intéresse pour l'instant exclusivement aux vagues de chaleur. Encore en développement, ce modèle permettra aux experts, à terme, de mieux comprendre l'influence des activités humaines sur les épisodes climatiques extrêmes afin de prévoir ces derniers et d'agir en conséquence. L'analyse publiée le 9 juillet 2024 arrive à la conclusion que les activités humaines rendent les vagues de chaleur beaucoup plus probables au Canada. Ce système d'attribution poursuit également un objectif de sensibilisation. Les changements climatiques ne sont pas quelque chose de flou, lié au futur. On les vit maintenant, explique Gregory Flatto, chercheur à Environnement Canada. En calculant ce qui arrive déjà, ce modèle permettra aux Canadiens de mieux comprendre comment les changements climatiques nous affectent déjà et comment ils continueront de nous affecter. En publiant ce type d'informations tout de suite après des événements extrêmes, on espère transmettre clairement ce message à la population. M. Flatto souligne que les Canadiens peuvent agir individuellement pour réduire leurs émissions de CO2, par exemple en évitant le plus possible d'utiliser la voiture à essence. La vague de chaleur qui s'abat actuellement sur la Colombie-Britannique fera l'objet d'une analyse par ce nouveau modèle. C'était « La résilience est de mise chez les producteurs et les cueilleurs de cerises de l'Ouest canadien », un texte de Florence Bordelot-Gagné paru le 10 juillet 2024 dans Le Devoir.
Vers une éducation post-secondaire durable en français. Un texte de Gabriel Audet-Michaud paru le 27 mai 2024 dans Le Franco, en Alberta. Malgré l'augmentation de ses inscriptions, le campus Saint-Jean continue d'intensifier ses efforts pour attirer et fidéliser sa clientèle francophone. Une mission qui se déploie sous divers axes, de l'établissement de partenariats avec les conseils scolaires francophones et le réseau d'écoles d'immersion française de la province, à l'élargissement de l'offre actuelle de cours en français, en passant par le recrutement d'étudiants internationaux. La problématique du recrutement et de la rétention des étudiants francophones en contexte minoritaire a été au cœur des discussions lors du deuxième sommet sur l'éducation post-secondaire de langue française en Alberta qui s'est tenu à Edmonton récemment. Les données présentées par des chercheurs de l'Université de Saint-Boniface démontrent que peu d'élèves manitobains étudient en français de la maternelle à la première année universitaire. Cette situation laisse présager une réalité similaire en Alberta. Je dirais que c'est probablement la norme dans plusieurs provinces à majorité anglophone, mentionne la présidente de l'Association canadienne-française de l'Alberta, ACFA, Nathalie Lachance. Pour étayer ses propos, elle met en lumière le contraste entre l'évolution relativement faible du nombre d'inscriptions au campus Saint-Jean et la croissance remarquable des écoles francophones dans la province au cours des 40 dernières années. En 1984, les deux seules écoles francophones de la province comptaient environ 370 élèves. Aujourd'hui, ce nombre s'élève à 9540 élèves répartis dans 43 écoles, soutient-elle. Bien que le campus Saint-Jean ait enregistré une augmentation de ses inscriptions, cette progression n'est pas représentative ni proportionnelle à celle des écoles francophones. Pour rappel, la faculté évaluait son nombre d'étudiants inscrits en septembre 2023 à environ 850. On perd des élèves après l'école secondaire. C'est ce qu'on constate, résume la présidente de l'ACFA. Faire face aux défis de rétention. Le doyen du campus Saint-Jean, Jason Carey, est bien conscient du défi que représente la rétention des jeunes qui transitionnent du réseau scolaire à l'université. D'après lui, de nombreux élèves délaissent le réseau francophone après la 12e année, alors qu'ils font face à un choix crucial pour leur avenir universitaire. Les élèves des conseils scolaires sont bilingues et ont la liberté d'aller dans n'importe quelle institution étudier dans n'importe quel programme, tandis que nous sommes limités dans ce que nous pouvons offrir, explique-t-il. Un travail de sensibilisation est à continuer et renforcer auprès des élèves et des parents, et ce, dès l'école primaire, afin de les informer sur les avantages du réseau francophone post-secondaire. On doit démontrer pourquoi le bilinguisme est important, pourquoi c'est important d'être capable de travailler en français, ellipse. La suite logique pour y arriver, c'est en venant au campus Saint-Jean, ajoute-t-il. La directrice générale de la Fédération des conseils scolaires francophones de l'Alberta, FCSFA, Anne-Marie Boucher, rappelle de son côté que la rétention des élèves est problématique non seulement en 12e année, mais surtout à partir de la 10e année. C'est une difficulté persistante. Notre priorité est de s'assurer que nos jeunes qui commencent à la maternelle finissent en 12e, précise-t-elle. En développant une éducation post-secondaire plus robuste en français, elle estime que la fidélisation des élèves au sein des écoles francophones sera meilleure, et ce jusqu'en 12e année. C'est certain que l'objectif, c'est que les étudiants poursuivent jusqu'au post-secondaire en français, mais c'est le développement des programmes au campus Saint-Jean qui aura un impact sur cela, souligne-t-elle. Du travail a été amorcé pour accroître cette offre, mentionne Jason Carey. Notamment, un nouveau doctorat transdisciplinaire sera lancé à l'automne 2024. L'administration du campus est également en réflexion pour moderniser certains programmes et permettre à des cours d'être offerts au sein de plusieurs programmes pour maximiser les ressources. En outre, un partenariat est envisagé avec d'autres établissements post-secondaires francophones situés en milieu minoritaire pour permettre aux étudiants d'accéder à des cours en ligne qui ne seraient pas disponibles dans leur propre faculté. L'offre pourrait être augmentée si on travaille ensemble. La question qui demeure, c'est comment on s'y prend. Ellipse. L'enjeu financier n'est pas énorme et il y a énormément de potentiel pour la francophonie canadienne, mentionne le doyen. Des efforts au niveau du recrutement. Parallèlement à l'expansion de l'offre de cours, l'administration du campus Saint-Jean explore des approches novatrices pour inciter les étudiants francophones de la province à poursuivre leurs études à la faculté. Des ententes sont en cours de développement avec des écoles secondaires nourricières qui pourraient offrir des crédits à double reconnaissance. On est en discussion avec les autorités scolaires francophones, le Calgary Board of Education et les conseils scolaires qui ont de l'immersion dans la région d'Edmonton pour voir comment on peut travailler avec eux, explique Jason Carey. L'idée serait d'offrir des cours aux élèves de 11e et 12e année qui sont à la fois reconnus dans le programme secondaire et comme des crédits déjà complétés au campus Saint-Jean. Un moyen d'élargir l'offre de cours au secondaire, mais aussi de permettre aux étudiants d'économiser argent et temps une fois leurs études universitaires amorcées. Ça s'en vient bientôt. Plusieurs ententes seront complétées dans les prochains mois, fait-il valoir. La pérennité du campus Saint-Jean, qui souhaite accueillir de 1500 à 2000 élèves à long terme, dépend aussi du recrutement et de l'arrivée d'étudiants internationaux, avance le doyen. À ce titre, la faculté espère devenir un phare de la francophonie, ellipse, au niveau de l'immigration hors Québec, mentionne-t-il. On travaille à développer un projet avec Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, IRCC, pour voir comment on peut financer un programme d'admission et d'accueil, ajoute-t-il. Les étudiants français, belges et suisses sont évidemment ciblés, ainsi que ceux en provenance de l'Afrique, notamment du Maroc, de la Tunisie et du Sénégal. L'objectif n'est toutefois pas d'éclipser les missions principales du campus qui est, avant tout, de desservir l'Alberta et la communauté francophone d'ici. Mais les ressources financières qui découlent des frais de scolarité des étudiants internationaux permettront de renforcer l'offre de cours et de soutenir le cycle de croissance de la faculté, explique le doyen. Évidemment, avoir une population étudiante qui est internationale nous amènerait plus de ressources, comme c'est le cas pour toutes les autres universités au Canada, conclut-il. C'était « Vers une éducation post-secondaire durable en français ». Un texte de Gabriel Audet-Michaud paru le 27 mai 2024 dans Le Franco en Alberta.